Place au dossier de Radio Okapi. Plus d'un mois après le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial, la CENI fixe la date de l'élection des nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs du Kasaï central. Comment cette annonce est-elle accueillie et qu'en pensent les politiques et la population locale? Élément de réponse dans ce dossier de Joël Bofengo depuis Kananga.
C'est donc le 21 décembre prochain que les députés provinciaux vont élire le nouveau gouverneur du Kasaï central qui va succéder à Alex Kandé. Ce dernier a été déchu en octobre dernier à la suite d'une motion de censure qui a renversé tout son gouvernement. Satisfait, insatisfait ou indifférent, les habitants de Kananga ont commenté la publication du calendrier de l'élection du gouverneur.
Ce n'est pas important et ce n'est pas le moment parce que nous sommes une province qui a, au lieu d'avancer, nous reculons toujours. Et nous n'avons pas des institutions capables qui peuvent aider notre province à avancer. Bien qu'on vienne de publier le calendrier de position du gouverneur, ça n'intéresse pas la population.
Oui, nous sommes très contents pour que le calendrier soit publié au niveau de la province du Kasaï central, parce que la province du Kasaï central souffre de leadership.
On attendait longtemps ce calendrier. Notre province a sombré dans l'ignominie, sa faible lurette. Et avec un problème de leadership à la tête de cette province, il y a eu toujours... Des motions contre les gouverneurs. Mais cette fois-ci, nous sommes pour ces calendriers.
C'est pourtant la deuxième fois en une année que la commission électorale publie un calendrier pour l'élection du gouverneur du Kasaï central. En août dernier, la CENI avait été obligée de suspendre cette élection faute des candidatures. Les deux candidats, Martin Kabuya et Crispin Kankonde, qui avaient bien déposé leur dossier à la commission électorale, s'étaient finalement désistés. À l'époque, le gouverneur Kandé, rappelé à Kinshasa, n'avait pas encore été destitué par l'Assemblée provinciale. Une destitution qui est intervenue le 5 octobre dernier et qu'il comptait devant la Cour constitutionnelle. Dans son parti, le Congrès des Alliés pour l'Action n'assure ne pas être très concerné par l'élection du nouveau gouverneur. Son secrétaire exécutif provincial, Théo Letta.
Nous avons appris comme tout le monde. La CENI a publié son calendrier, il a fait son travail. Et notre parti ne gère pas la CENI, considérant ça comme un non-événement pour nous. Nous étions gouverneurs, présentant encore une autre candidature avec le même député, qui font ce qu'ils font, qui lisent très mal les textes, et ne voulons pas avoir des problèmes avec les gens. Nous souhaiterons toujours bonne chance à celui qui va venir.
Le rapporteur de l'Assemblée provinciale indique que son institution a bien été informée de la requête en inconstitutionnalité introduite par Alex Kandé. Mais selon lui, cette démarche juridique ne remet pas en cause la procédure de l'élection du nouveau gouverneur, Manix Kabwanga.
La requête n'a pas un effet suspensif. Le droit, la justice fait son travail et nous, la politique, nous faisons le nôtre. Nous attendons la suite.
Les calendriers publiés par la commission électorale prévoient que les candidats déposent leur candidature du 15 au 19 novembre. C'est le 6 janvier 2018 que nous connaîtrons le nom du nouveau gouverneur du Kasaï central.
L'invité. Dans la province du Haut-Ouélé, l'arrivée massive des éleveurs Mororo à Niangara, territoire situé à plus de 700 km au nord de Kisangani, préoccupe ce jour-ci les autorités locales. 6 des 7 chefferies qui composent cette entité sont envahies. Selon des témoins, certains éleveurs Mororo s'adonnent quotidiennement à des exactions. La présence de ces éleveurs étrangers a-t-elle changé la situation du milieu? Réponse de l'administrateur du territoire, Léon Kabati, est joint par Anselme Massoua.
Bonjour, monsieur l'administrateur du territoire.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Monsieur l'administrateur du territoire, c'est depuis quand que les éleveurs Mororo ont foulé pied dans votre territoire, Niangara?
Oh, ça date de très longtemps. C'est depuis l'année 2006 qu'ils étaient venus, ils ont été repoussés la même année. Ils sont encore revenus vers l'année 2008, puis ils étaient encore refoulés. Et pour la troisième fois, ils sont revenus vers les années 2011-2012. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur leur nombre présentement? On peut les estimer à combien?
On n'a pas même une petite idée sur leur nombre. C'est un dossier qui n'est pas de la compétence du territoire. Et puis, on n'a jamais fait leur recensement.
Évaluer avec exactitude, c'est peut-être difficile. On peut les estimer à combien, partant des rapports que vous recevez ou des observations que vous êtes en train de faire?
Mais je vous dis que c'est très difficile, trop nombreux.
Dans les 10 000, 20 000 par exemple?
Je risque de mentir, monsieur le journaliste, si je peux vous donner vraiment un chiffre, parce qu'on ne les a jamais comptés. Et puis ils sont confondus dans leur cheptel, ils ont beaucoup de vaches.
Alors, quelles sont les parties du territoire, les chefferies ou secteurs qu'ils occupent présentement?
Sur cette chefferie qui compose le territoire de Niangara, ils occupent 6 chefferies. Il y y a d'abord la chefferie Manziga, qui est d'ailleurs leur vecchio. Il y a la chefferie Kopa, chefferie Kereboro, la chefferie Manguetu, la chefferie Okondo. Il y a aussi la chefferie Manguele. Il ne reste qu'une seule chefferie pour que vraiment l'entièreté du territoire soit envahie par les Mbororo. La chefferie Boïne.
Est-ce qu'elle continue toujours à arriver, surtout avec les conflits armés que nous vivons du côté RCA?
Oui, oui. Récemment ici, Mangwele n'était pas envahi, mais il y a à peine deux semaines, il y a une vague de Mbororo qui est venue du Bas-Zuélé, plus précisément en territoire de Poko. Ils sont là-bas. Il y a d'autres qui sont entrés il y a à peine deux mois. Ils sont venus aussi du Bas-Zuélé. Ils sont dans la chefferie Manguetu. Plus loin, presque à 80 km de Nambia, le chef-lieu de Manziga, plus précisément à Gourba, il y a vraiment un attroupement très important des Mbororo avec leurs dépendants et beaucoup de bêtes. Ambouéré aussi, mêmement.
Est-ce vrai que dans certaines chefferies, ils seraient plus nombreux que les autochtones?
Dans certains villages, ils peuvent être plus nombreux, voire même les triples, plus que la population autochtone. Il y a par exemple en chefferie Kereboro.
En dehors de leurs activités de paître leurs bêtes, est-ce qu'ils ont encore d'autres activités?
Leur grande activité, vraiment, c'est l'élevage, hein. Des petites activités qu'ils peuvent faire, comme par exemple la vente des produits pharmaceutiques pour leurs bêtes. Il y a ceux qui vendent aussi des habits.
On nous apprend aussi que ils font les taxis-motos, ils tiennent de petits restaurants. Vous les confirmez?
Pour les taxis-motos, il y a ceux qui voulaient commencer à faire ça. Et nous avions interdit cette activité.
Quelles sont vraiment les exactions, le mal qu'ils causent aux autochtones? Concrètement, ils font quoi comme mal?
Au début, quand ils étaient venus ici, ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, comme ils ont déjà mis beaucoup de temps ici chez nous, tout ce que les Congolais mangent et aussi les mangent. Donc, sur le marché, les denrées alimentaires ont augmenté le prix. Parce que le nombre de consommateurs est devenu plus élevé par rapport au nombre de producteurs. Bon, c'est à cause d'eux que le prix vraiment a augmenté sur le marché. En plus de cela, en tant pour ces éleveurs, nous, c'est l'agriculture. Maintenant, ils arrivent des fois, s'il y a quelqu'un, un autochtone, qui a fait son chat dans la forêt, peut se réveiller un matin, ils trouvent vraiment tous les cultures ont été broutées par leurs bêtes. Parmi eux aussi, il y a ceux qui ont vraiment un très mauvais caractère. Dans les champs, par exemple, ils arrivent, si le propriétaire du champ n'est pas là, eux-mêmes, ils se permettent vraiment à prendre ce qu'ils veulent. Ou bien des fois, s'ils vous trouvent dans les champs, ils vous intimident, ils vous demandent de leur donner ce qu'ils veulent et vous donner contrairement à votre gré.
On nous apprend aussi qu'il y a de ceux-là qui se sont transformés en coupeurs de route et rançonnent la population.
Ce sont des cas très rares.
Vous avez déjà présenté cette situation à votre hiérarchie.
À l'heure qu'il est, il y a déjà une commission provinciale chargée de ces dossiers de Mbororo. Je pense que tous ces problèmes-là que vous êtes en train de me poser ne manqueront pas à trouver des solutions, bien évidemment, peut-être avant même la fin de cette année.
Et votre souhait, c'est de les voir partir ou cohabiter avec eux?
Pas mon souhait. Pour la population, le souhait est que les grands tribus, ils étaient venus, hein.
Je vous remercie, monsieur l'administrateur.
Monsieur le journaliste, c'est plutôt moi qui vous remercie.
C'était l'administrateur du territoire de Niangara qui était interrogé au téléphone par Anselme Massoua. Okapi Sport. On en vient maintenant à l'actualité sportive. Le rendez-vous de Nana Mbala. Nana, bonsoir.
Bonsoir Pascal Masirika, bonsoir amis sportifs. La RDC n'ira pas au Mondial Russie 2018. Le pays a terminé en deuxième position du groupe A avec 13 points, derrière la Tunisie 14. Un regret pour Florent Ibengué et ses poulains qui ont réalisé 6 matchs avec 4 victoires, une défaite et un match nul. Florent Ibengué, nous l'écoutons.
Encore. On se retrouve second, les Français disent vulgairement, c'est la place du cocu, donc c'est pas très, très agréable. C'est vraiment le sentiment qu'on a d'avoir bien fait le travail. Mais c'est vrai que à la sortie, là, je viens d'encourager les joueurs, les exhorter à travailler d'autant plus dans leur club, parce que faut pas oublier d'où on vient. Avec la concurrence installée en équipe nationale, ils ont pu élever leur niveau, devenir titulaires dans leur club. Et maintenant, il faut qu'on puisse continuer à avancer et qu'on puisse avoir des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. On n'a pas encore ça. On n'a pas encore eu un joueur qui joue à Barcelone, à Manchester, alors qu'il y a d'autres pays africains qui ont ce genre de joueurs. Donc, il faut qu'on puisse y arriver à ça. Et c'est une déception de ne pas se retrouver en Russie, ça c'est clair. On termine avec plus de points que certains premiers d'autres groupes. Donc voilà, ça montre quand même qu'on a fait un parcours plutôt honorable. Chiffré, sur 6 matchs, ils ont gagné 4, un nul et une défaite. Je crois que c'est plus qu'honorable, mais c'est pas suffisant.
Notez qu'à 19h15, heure de Kinshasa, l'émission Dialogue entre Congolais reviendra sur cette non-participation de la RDC au Mondial Russie 2018. Et puis en championnat national de football division 1, suite de la première journée cet après-midi dans la zone centre-sud, Mazembe a démarré aujourd'hui par une victoire face à Ecofoot Katumbi sur la marque de 2-0. Hier, Sangabalenda a été tenu en échec par Dibumba, un but partout, et un but partout également entre Océan Pacifique et l'équipe de Chinkunku de Kananga. À Kinshasa, on jouera demain au stade de Martyr entre le Dering Club Motema Pembe et l'équipe de Rangers. Hier, Dragon a eu raison des RCK par 1-0, de même que Renaissance qui a dominé MK par 1-0. Et dans la zone Est, le prochain match pour mercredi, Dauphin Noir de Goma jouera Mont Bleu de Bounia et DC Virunga contre Maniema Union de Kindu.
Merci Nanambala pour cette page sportive. Terminons par le taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo. Notez qu'un dollar américain s'achète aujourd'hui à 1546 francs congolais et se vend à 1609 francs congolais. Ce journal est terminé. Merci d'avoir écouté.